Et on se réjouit, n'est-ce pas, d'ouvrir la parole de Dieu, cette Bible, ce trésor extraordinaire. Plus les mois ou les années passent de vie chrétienne, et j'espère que vous faites vos délices de la parole de Dieu, qui est là, cette Bible merveilleuse. On a tendance peut-être avec les années à apprécier certains passages plus que d'autres, mais rappelons-nous que la parole de Dieu tout entière, elle est utile. Comme dit Paul à Timothée, elle est utile pour notre croissance, pour qu'en tant que serviteurs de Dieu que nous sommes, nous soyons adaptés, équipés, prêts pour l'œuvre que Dieu a préparée d'avance. Amen. Donc cette parole, on a la joie ce soir de pouvoir l'ouvrir. Dimanche dernier, je parlais sur les cinq piliers de l'Évangile. L'Évangile est simple, l'Évangile est doux, rempli d'amour, etc. Et en fait, l'Évangile, dans sa simplicité, c'est à nous de le garder. L'Évangile est simple, on n'a rien à rajouter. Jésus-Christ est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour notre justification, pour qu'on soit rendu juste aux yeux de Dieu, et nous le sommes. Et j'espère que chacun ce soir a pu prendre un jour, ou si ce n'est pas déjà fait, mais faites-le ce soir, cette décision d'accepter Christ comme Sauveur et Seigneur de votre vie. Non pas seulement pour que vous soyez sauvés et que vous ayez la vie éternelle, mais pour que vous puissiez accomplir ici-bas, dans les mois ou les années qui restent, eh bien ce que Dieu a prévu, préparé à l'avance. N'est-ce pas ? Les années filent, les années passent. Regardez la petite Élise, elle a presque une année bientôt. Eh bien, ça file vite, la vie. Donc, attachons-nous à Jésus-Christ, à sa parole, et servons-le lui seul. Servons-le lui seul, et c'est le meilleur. Dans le verset de l'année que nous avons, c'est Ésaïe 43, 18, 19, il est dit que Dieu s'engage à faire un chemin nouveau dans le désert. Je tracerai un chemin nouveau dans le désert. Je ferai couler des fleuves dans les lieux arides. Alors, est-ce que vous le vivez? Est-ce que nous le vivons? Bien, si ce n'est pas déjà le cas, ou si ça doit s'amplifier, ce que je crois, eh bien, continuons de proclamer la parole de Dieu. La déclaration liée à la foi de la parole de Dieu entraîne l'action du Saint-Esprit. Ce n'est pas une recette à appliquer systématiquement, mais c'est dans le sens que dans notre relation à Dieu, alors que nous lisons sa parole, cette parole nous concerne, elle est pour nous et elle devient vie par le Saint-Esprit. Elle devient vie. Alors il faut la proclamer parce que la parole, elle doit être audible pour notre foi. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, dans Romains chapitre 10. Donc ce que vous entendez fortifie votre foi. Ce avec quoi vous nourrissez va affermir votre être intérieur et ça prend vie et ça se produit. Même dans les déserts, il était question de désert tout à l'heure dans Ésaïe 58. Voilà, question de le désert où Dieu va nous guider même dans les zones désertiques et arrosées. Croyons-le et puis déclarons-le. Alors chaque exercice est à faire chaque jour, de prendre la parole de Dieu là où vous en êtes de votre lecture, de vous approprier la promesse sur laquelle vous tombez et de la proclamer, de la méditer, de la cultiver et de la garder pour votre vie. Et le thème de mon message ce soir, eh bien, est lié à un passage des Proverbes, à deux versets qui se trouvent dans les Proverbes, Proverbes chapitre 3, et c'est les commandements de Dieu, ou l'appropriation des commandements de Dieu, ou la mise en pratique de l'enseignement de Dieu, eh bien, produit en nous une faveur divine. Nous sommes tous sous la faveur divine, en Jésus-Christ. Tout le monde, on est béni, on est heureux en lui, mais il y a un chemin quelque part d'intense bénédiction qui découle de l'appropriation des commandements, de la mise en pratique des commandements de Dieu et de tous les commandements du Seigneur. Et on va voir ça ensemble, donc Proverbes chapitre 3. Je vais lire dans une version qui est inhabituelle, c'est la version TOB, T-O-B, traduction œcuménique de la Bible. Donc si vous n'avez pas la même version, ben, soit vous l'écoutez, soit vous comparez avec la vôtre. Proverbes chapitre 3, et donc ce sont les quatre premiers versets. « Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur observe mes préceptes. Ils sont longueur de jour et année de vie, et pour toi plus grande paix. Qu'amitié et loyauté ne te quittent pas. Attache-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras la faveur et sera bien avisé aux yeux des dieux et aux yeux des hommes. Est-ce que c'était Tob ? Non, c'est second 21, donc c'est un petit peu différent. La version Tob, c'est une version qui est un petit peu plus ronde, un peu plus facile à lire au niveau du français que si jamais les versions second, voire même Darby. Par exemple, voilà, c'est pour ça que je l'ai prise en fait, puisque on est dans les proverbes, ce sont les textes poétiques, c'est l'écriture poétique. Dans la parole de Dieu, il y a des textes prophétiques, il y a des textes poétiques, voilà, et les proverbes en font partie. Écrits pour la plupart, on pense, enfin c'est dit, par Salomon, le roi Salomon. Alors ça commence comme ça, et on va prendre les quatre premiers versets. « Mon fils, n'oublie pas mon enseignement, et que ton cœur observe mes préceptes. » Ou alors, mettez-y « ma fille », bien sûr, c'est pour faire court, y a pas, tout n'est pas nommé. Mais il est dit ici « mon fils, n'oublie pas mon enseignement, et que ton cœur garde ou observe mes préceptes. » Dans ces quatre versets que j'ai lus, il y a deux promesses. Et dans les deux promesses personnelles, on pourrait dire, eh bien, il y a encore des sous-promesses dedans. Ça, c'est intéressant. Vous rappelez les poupées russes, on appelle ça comme ça, je crois. Hein, vous ouvrez, puis il y en a encore une, et il y en a encore une. Eh bien, dans la parole de Dieu, les versions, enfin, dans les psaumes et dans les proverbes, vous avez comme ça des promesses en escalier. Et c'est là, on en a deux exemplaires qu'on peut s'approprier, donc. Et les proverbes aussi, ça c'est aussi dans mon introduction, il y a un peu deux styles d'écriture dans les proverbes. Il y a les proverbes qu'on peut grouper en parties sur, autour d'un thème. Par exemple, le proverbe 31, mesdames, vous vous rappelez ce que c'est, messieurs aussi, c'est la femme idéale, femme d'affaires, femme aimante pour son foyer, etc. Et c'est un chapitre, ça tourne tout autour de ce thème. Ou alors, il y a les proverbes aussi, style un peu... apéritif dînatoire. Vous allez à la table et puis vous prenez ce qui vous intéresse et il y a plein de choses. C'est un peu comme ça. Donc le proverbe 3, c'est autour des bénédictions, c'est vrai, puis en même temps, il y a plusieurs plats comme ça. Donc si vous prenez tous les proverbes 3, ça parle des offrandes, ça parle des commandements. Voilà, il y a plein de choses très intéressantes comme ça. On prend ce soir juste quelques plats, mais je vous encourage bien sûr à lire et relire ces textes. Alors ça commence par mon fils, ici. Y a-t-il un lien de parenté ? Alors ça pourrait être Dieu qui parle, qui dit « mon fils, ma fille, je m'adresse à toi directement ». Et ça peut être aussi un maître à son disciple ou à son apprenti, affectueusement, comme Jésus parle parfois à certains de ses disciples « mon fils, ma fille ». Dans Luc 8, 48, il est dit « ma fille ». Ça commence par « ma fille, prends courage, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix ». Il y a ce terme affectueux, et dans l'école chrétienne Timothée, il y a une des choses qui est découverte, en tout cas dans les écoles chrétiennes, je crois plus qu'ailleurs, c'est ce lien, on pourrait dire, d'affection ou de paternité, d'enseignement qui va avec. Un bon enseignant, c'est quelqu'un qui a de l'affection pour ses élèves, en toute pureté. Un bon enseignant, c'est quelqu'un qui est capable de transmettre ce qu'il aime. Et quand dans l'amour, dans une classe, il y a de l'amour, eh ben, ça va tout de suite beaucoup mieux. Et on a tous, bien sûr, un enseignant quand on se souvient, ah ouais, celui-là, c'était quelqu'un de bien, ou c'était quelqu'une qui nous avait bien enseigné. Eh bien, dans la parole de Dieu, il y a ce lien de filiation, mon fils, ma fille. Jésus aime dire à ses disciples, leur adresse son affection. Par ce moyen-là, il est un maître qui communique son affection et ses enseignements de manière extraordinaire et inédite. Il y a un terme affectueux qui est là, qu'on peut prendre entre Dieu et nous. Dans 2 Corinthiens 6, 18, Dieu promet, si on se sépare du péché, « Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. » C'est magnifique ce verset. 2 Corinthiens 6, 18, il est dit « Séparez-vous, dit le Seigneur, il faut quitter Babylone. Et je vous accueillerai, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Tu peux être fille de Dieu, tu peux être fille du Dieu Tout-Puissant, fils du Dieu Tout-Puissant. Extraordinaire, n'est-ce pas ? Que d'affection dans ces termes fabuleux. On raconte que quand c'est le premier jour de l'école, dans les écoles juives, et que le maître est là, l'enseignant est là, il n'y a pas seulement des livres, des grammaires, etc., mais il y a des biscuits, il y a à manger. il y a quelque chose à manger. Alors, je me souviens une fois à l'école Timothée, un lundi matin, c'était la période du jour de l'an, à peu près, eh bien, de l'école de Nouvel An juif. Vous savez que certains juifs disent ils disent des paroles de bénédiction au jour de l'an, comme nous, on se souhaite une bonne année. Mais dans le judaïsme, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on trempe un morceau de pomme dans le miel, la douceur, et on dit que l'année soit douce pour toi. On bénit comme ça. Alors, les élèves avaient raffolé de ce miel, donc c'était l'occasion comme ça de bien enseigner la parole de Dieu. J'espère qu'ils s'en rappellent. La parole de Dieu est comme du miel. Aimez la parole de Dieu parce qu'elle est bonne. C'est pas « je dois lire la parole de Dieu ». Aujourd'hui, j'ai lu mes trois chapitres ou mes trois versets. Comme ça, c'est bon, je suis réglé pour la journée. Dieu va me bénir. Non, il y a un lien d'amour, d'affection avec cette parole de Dieu. Et la preuve, il nous est dit de la garder dans notre cœur. Dans la tête, c'est une bonne chose. Et dans le cœur, c'est en plus. Quand c'était la Saint-Valentin, vendredi, sur les réseaux sociaux, voilà mon bien-aimé, je t'aime de tout mon cœur. Oui, j'ai jamais compris pourquoi on disait à son bien-aimé via Instagram ou autre, qu'on l'aimait. On peut le dire directement. Enfin, voilà, autre génération peut-être. Je commence à me faire vieux. Bref, mais il y a un lien de filiation et d'amour avec la parole de Dieu. Alors, je ne sais pas, j'ai vu personne sur les réseaux sociaux qui mettait la parole de Dieu, je t'aime de tout mon cœur. Et on devrait pouvoir le dire, j'aime la parole de Dieu de tout mon cœur. Parole de Dieu, c'est mon fiancé, ma fiancée, je suis un avec elle. Je vais loin, hein, peut-être, mais bref. Voilà, soyons des amoureux de cette parole de Dieu qui a tant encore à nous apprendre, tant nous avons à découvrir, se laisser enseigner, se laisser guider par elle. Elle est merveilleuse et elle est enrichissante. Il y a cette exhortation dans ce verset, vous inquiétez pas, je vais quand même aller plus vite. N'oublie pas mon enseignement. Ah, ça commence comme ça. Hein, c'est pas seulement que la parole de Dieu, elle est bonne, elle est recette et vie pour notre vie, mais n'oublie pas. Alors le mot oublier, dans la parole de Dieu, il est intéressant parce que souvent, Dieu reproche à son peuple d'oublier ses actes. Dieu a agi, ils se retrouvent un peu dans la difficulté, dans le désert, et ils oublient que Dieu a agi. Ils oublient, alors peut-être on pourrait dire qu'ils n'avaient pas de smartphone pour filmer la manne qui tombe du ciel, non, mais ils l'avaient quand même tous les jours, et ils oubliaient les bontés, la grâce de Dieu et la délivrance dont ils avaient été l'objet. Alors on est encouragé à ne pas oublier. Et tu peux dire à ton voisin, t'oublie pas hein, ce que Dieu a fait. La conversion, t'oublie pas ton baptême de l'esprit, n'oublie pas ton baptême, l'engagement que tu as pris à ce niveau-là. Dieu agit dans ta vie, il va continuer d'agir. C'est bien, on peut lever le doigt avec ça. Dans Deutéronome 8, 19. On va prendre Deutéronome 8, 19. Il y a même un avertissement que si on oublie les œuvres de Dieu, ou oublier Dieu, ça peut être grave. Deutéronome 8, verset 19. Alors, si tu oublies l'Éternel ton Dieu et suis d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous avertis expressément aujourd'hui que vous périrez. Voilà, c'est clair, c'est net. Un oubli de Dieu, une adoration des faux dieux, des idoles, quelque chose qui prend sa place, eh bien, on se met quelque part sous une malédiction. Hein. Alors, elle est peut-être, entre guillemets, pas évidente, mais oui, oublier Dieu, oublier qui il est, mettre en veille à quelque part les choses de Dieu dans nos vies, ce n'est pas sans conséquence. Bien sûr, on a tendance après à atténuer la portée du péché, à atténuer toutes les paroles de Dieu, etc., etc. Ça s'est vu dans l'histoire. Ne pensons pas que nous allons être debout jusqu'à la fin de nos jours sans être tentés par rapport à ça. Mais soyons forts et n'oublions pas Dieu. D'où le sens de la communauté chrétienne. Nous sommes là vraiment pour nous encourager les uns et les autres dans ce sens. Oubliez l'Éternel, allez vers les idoles. C'est ce qui s'est passé aussi dans Juges. On voit en haut, en bas, le peuple qui s'éloigne, qui se rapproche, qui crie à Dieu, etc. Oublier Dieu, c'est aussi synonyme d'abandon dans la parole de Dieu. Enfin, je vous fais grâce de toute l'étude, mais il y a cette notion d'abandon. Si j'oublie, involontairement, j'abandonne quelque chose. J'abandonne. Voilà, à creuser peut-être. Mais par contre, il y a des choses qui sont à oublier, et volontairement. L'apôtre Paul écrit, oubliant ce qui est en arrière. Alors oublie, hein, il y a un ordre à quelque part. Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Des fois, les choses du passé nous retiennent, hein, ça nous colle à la peau. Eh bien, voilà, il y a une nécessité de l'oubli. Dieu lui-même oublie volontairement tes péchés et les miens. Michée chapitre 7, verset 18. Quel Dieu est semblable à toi ? Tu pardonnes la faute, tu oublies la révolte du reste de ton héritage. Voilà, il ne garde pas sa colère à toujours, il prend plaisir à la bonté. Donc Dieu oublie, il est dit ici le prophète, hein, c'est comme un chant, tu pardonnes la faute, tu oublies la révolte. Waouh, merci Seigneur. Seigneur, tu te rappelles quand j'ai fait ça ? Non, je ne me rappelle pas. De quoi tu parles ? Seigneur, non, j'ai oublié. Alors oublie toi aussi. Oublie les choses, porte-toi vers l'avant. Et il y a cet encouragement, un tendon dans l'Épître aux Hébreux, tendon vers ce qui est en avant, et ça doit nous fortifier. La foi nous affermit ou fait estomper la peur de l'avenir. S'il y en a parmi nous qui ont peur du lendemain, ça peut arriver, hein, eh bien, fortifions notre foi. La Bible nous dit là d'oublier ce qui est en arrière, de nous porter vers ce qui est en avant, car Dieu est là, il est présent. Amen. Donc n'oublie pas l'enseignement. J'aimerais aussi dire, ne pas oublier l'enseignement que Dieu t'a donné directement. Parce que rien ne remplace ce que Dieu t'a dit personnellement. Quel enseignement il te dit en ce moment ? Quel thème il a mis sur ton cœur ? Qu'est-ce que tu médites ? Voilà, n'oublie pas cela. Garde-le au fond de ton cœur. Notons, écrivons, enregistrons, revenons-y. Et Dieu est un Dieu de grâce. Voilà, l'Esprit de Dieu, une partie de son ministère, c'est de nous rappeler ce que Jésus a dit. Donc, les choses qu'il t'a dites, peut-être tu es passé dans une épreuve similaire. Aujourd'hui, c'est une épreuve qui ressemble à quelque chose que tu as vécu. Ben, qu'est-ce qu'il t'avait dit dans ce moment-là ? Qu'est-ce qu'il t'avait gravé ? Qu'est-ce qu'il avait gravé sur ton cœur ? Le Saint-Esprit ne gravera pas autre chose que la parole de Dieu, si tu le lui permets, dans ton cœur. Il ne va pas graver des philosophies, non, le Saint-Esprit, il est Dieu, et il véhicule la parole de Dieu. Alors, mon fils, ma fille, n'oublie pas quoi ? Ben, l'enseignement qu'il te donne, ce qu'il a gravé sur ton cœur. L'enseignement de Jésus nourrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, vous le savez. La parole de Dieu, elle est vivante et elle est permanente. Elle reste cette parole, et elle va nous juger. Hein, c'est mes paroles qui jugeront, c'est pas moi je vous juge pas, mais mes paroles vous jugeront, dit Jésus aux religieux. La parole, elle pèse, elle sous-pèse la parole de Dieu. Elle nous met face à nos responsabilités. Alors il faut pas l'oublier. Et elle est permanente. Et puis elle régénère, ça c'est génial. La parole de Dieu, elle régénère. Le mot, c'est-à-dire elle fait naître quelque chose. Elle fait naître quelque chose. Ça c'était le premier verset. Et si on est là-dedans. Si tu n'oublies pas l'enseignement, si ton cœur s'accroche à ça, au précepte de Dieu, conséquence ou alors promesse, eh bien, les commandements de Dieu sont longueur de jour et année de vie. Longueur de jour et année de vie. Pour toi. Et en plus, une plus grande paix, une grande paix. Donc, c'est une promesse un peu en escalier. Voilà, longueur de jour et année de vie. Peut-être que vous voulez dire, ouais, mais moi, je ne veux pas vivre trop longtemps parce que ben, être au ciel, ce sera beaucoup mieux, c'est vrai. Mais encore une fois, il y a une mission à accomplir ici-bas. Et tant que tu ne l'as pas accomplie, ça ne joue pas, n'est-ce pas ? Il y a le jour J, l'heure H du départ, on est d'accord, mais il y a une mission à accomplir ici-bas et on prie qu'elle s'accomplisse pour chacun et pour chacune. Mais regardez cette promesse, longueur de jour et année de vie. En fait, quand on s'attache aux commandements du Seigneur, qu'on les reçoit, on les garde dans l'amour de Dieu, Dieu nous promet que ta vie, elle ira jusque-là, jusqu'à ce qu'il se... Elle va pas s'abréger. Elle ne va pas s'abréger. Elle sera pas écourtée par le péché ou autre, etc. On m'a raconté un jour une histoire dans une école biblique. Il y avait un jeune homme qui était là pour... Il était converti, il méditait la parole de Dieu et il luttait avec des péchés, il n'arrivait pas à s'en sortir, il avait une vie difficile avant, compliquée. Mais voilà, il s'était converti et puis il n'arrivait pas, quoi. Il a dit Seigneur, c'en est trop. Il a fait cette prière. Attention, c'est dangereux de faire une prière comme ça. C'en est trop, il a été repris auprès du Seigneur. Et peut-être c'était une compassion divine, hein, mais c'était probablement pas prévu que sa vie soit si courte. Mais voilà, sa vie s'est arrêtée là. Il y a comme un stop de Dieu qui était là. Il n'arrivait plus à lutter. Alors voilà, ça pose question tout ça, mais bref. Mais il y a une espérance de vie qui est là. Le psalmiste dit, psaume 139, « Tu connais tous mes jours avant qu'ils ne soient inscrits. » Dieu connaît ta vie. Elle est comme... elle est préparée, oui, il y a une préparation qui est là, mais c'est à toi d'y rentrer de manière volontaire. Chaque jour qui passe, ne le laisse pas passer sans que la grâce, la bénédiction puissent être là. Il y a cette expression que j'espère vous aimez beaucoup dans l'Ancien Testament, « Il vécut âgé et rassasié de jours ». Voilà, « Seigneur, je suis âgé et j'ai fait mes journées avec toi ». Elle concerne par exemple Abraham dans Genèse 25:8, Isaac aussi, il était âgé, rassasié de jours, David aussi, qui a aimé Dieu, qui était homme selon le cœur de Dieu, âgé et rassasié de jours, un certain Jéhojada, de Chroniques 24:15, et puis, contre toute attente, ça a failli pas le faire, un certain Job, éprouvé dans le creux de la souffrance, dans le creuset de la souffrance, mais il s'en est sorti, je m'en sortirai. Je vois Dieu, et Dieu l'a pris, et il l'a béni, et il était âgé et rassasié de jours. Il a vu ses enfants, ses petits-enfants, ses petits-petits-enfants, hein, plusieurs fournées, comme ça, génial, hein, jusqu'au bout. Est-ce que vous souhaitez faire cette prière ce soir ? Seigneur, je veux être âgé, rassasié de jours, allez jusqu'au bout, allez jusqu'au bout. Ce n'est pas de fardeau en fardeau, ce n'est pas d'épreuve en épreuve, mais d'aller jusqu'au bout de mon séjour terrestre ici-bas. Voilà, et le séjour terrestre, encore une fois, il est bien court, il est bien court. Voilà, et promesse encore, non seulement la vie qui va aller jusqu'au bout, Dieu te promet cela, mais une grande paix, une grande paix, une grande paix pour le peuple de Dieu. Alors, il y a une étude qui est sortie, il y a quelques années en arrière, je vais essayer de la retrouver, dans le magazine Science et Vie, intéressante. Où est-ce qu'elle est ? Voilà. Alors, bien des études montrent que les croyants jouissent d'une meilleure santé globale. Des résultats à prendre toutefois avec des pincettes. Bon, ben voilà, le journaliste scientifique qui écrit. Mais que dit cette étude ? Alors, une des études. Depuis une vingtaine d'années, de nombreuses études semblent établir une corrélation entre degré de religiosité, ben ils appellent ça comme ça, hein, on va dire foi pour nous, et amélioration globale de la santé. Une méta-analyse, une grande analyse, menée entre 1977 et 1999 par l'Université de Duke, États-Unis, et portant sur 126 000 personnes, donc ça commence à être sérieux, hein, suggère que les croyants vivent en moyenne 29% plus longtemps que les non-croyants. Voilà, nous sommes dans la foi, 29% plus longtemps que les non-croyants. Science et vie de... Quel numéro ? C'est pas marqué, mais vous trouvez ça sur le site du magazine Science et vie. Pierre-Yves Bocquet, Adeline Colonna, voilà, qui ont publié cette étude. Si jamais, donc 29% mieux, en meilleure santé. Et ils attribuent ça à la méditation, notamment de la parole de Dieu, et à la prière. Voilà, c'est bon, ça. Hein ? Donc, la science corrobore ou atteste ce que nous dit ce verset des Proverbes. Alors, je vous souhaite de longs jours, des longues années de vie jusqu'au terme, et puis une grande paix, une grande paix. Tout ça qui découle simplement d'une relation avec la parole de Dieu. C'est formidable quand même, hein ? C'est génial, le privilège que nous avons d'avoir la parole de Dieu. Et puis les deux versets suivants montrent deux qualités qui pouvaient être... Alors, on ne sait pas trop comment Salomon les dirige. Dans le sens que, dans une première lecture, on peut penser, donc le verset 3, c'est « Qu'amitié et loyauté ne te quittent pas. Attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. » Donc, deux qualités, amitié dans ma version ici, et loyauté. Vous avez peut-être fidélité, puis autre chose. Donc, amitié, en tout cas, dans la version ici, Tob, et puis loyauté. Elles sont appelées à ne pas quitter le croyant. Mais en fait, elles peuvent être comprises, ce verset 3 peut être compris comme c'est des qualités qui émanent de Dieu. Que Dieu est ami et il est loyal, ce qui est bien sûr corroboré par la parole de Dieu. Deux qualités que nous sommes appelés, là c'est une image, à attacher à notre cou et à les écrire sur la table de notre cœur. Amitié et loyauté dans le peuple de Dieu. Alors on veut rejeter ce qui s'oppose à la loyauté, la déloyauté, et puis le manque d'amitié. Nous sommes appelés à être amis, frères et sœurs, amis les uns envers les autres. Ce qu'on peut dire de l'amitié, quelques-uns dans la parole de Dieu ont vu l'amitié de Dieu. Encore une fois, c'est Job 29, verset 4, ceux qui prennent des notes. Job se rappelle l'amitié qu'il avait avec l'Éternel. Dans son épreuve, il se rappelle les bons moments. Quelle était la meilleure période de ta vie chrétienne, là où tu es le plus proche de Dieu? C'est bon de se rappeler ça. Oui, je me souviens, j'aimais passer du temps dans la présence de Dieu, dans la cuisine, dans le, je ne sais pas où. Bref, Dieu me parlait. Voilà, ces temps bénis, je me souviens, quand j'avais un... Voilà, bref. Alors Job se rappelle et il pense ça comme des temps d'amitié avec l'Éternel. Il y a une promesse, Proverbe 25, verset 14. Envers ceux qui craignent Dieu, il y a l'amitié de l'Éternel qui leur est promise. Tu peux être ami de l'Éternel alors que tu le respectes. C'est quand même pas rien, hein, ami du Dieu Tout-Puissant. Et puis, bien sûr, Jésus, envers ses disciples, il dit, vous êtes plus serviteurs, mais vous êtes mes amis. Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Vous êtes mes amis. Amis de Jésus, pourrait s'appeler Église des Amis de Jésus, pourquoi pas, hein. Voilà, groupe de jeunes, des amis de Jésus. Eh bien, ouais, c'est pleinement biblique. Et le terme loyauté, en fait, dans l'hébreu, c'est emet. Vous avez peut-être entendu parler de ce terme, qui signifie intégrité, bonne foi, fidélité, qualité, caractère de quelqu'un. Alors, ça, c'est la définition de Larousse, dictionnaire Larousse. Caractère de quelqu'un, de quelque chose qui est honnête, loyal. Voilà. Tout ça, c'est des qualités que nous sommes appelés à avoir autour de notre cou. Comme bijoux, comme voilà, pendentif, amitié et loyauté. Amen. Voilà, tout cela, gardons-les, approprions-nous de ces choses-là. L'amitié, la loyauté. Attachés à notre cour. Alors, promesse, et on va terminer avec ça. Deuxième promesse, si on fait cela, eh bien, on va trouver la faveur et on sera bien avisé aux yeux de Dieu et des hommes. Waouh, là aussi une promesse extraordinaire. La faveur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la grâce de Dieu. Par exemple, dans le Nouveau Testament, c'est marqué « grâce de Dieu ». C'est une action de l'Esprit-Saint qui est particulière sur un homme ou une femme qui se confie en Dieu, qui met sa foi en Dieu. Une faveur, c'est une porte qui s'ouvre sans la forcer. Sans la forcer, c'est ça la faveur. David a eu la faveur des hommes, mais il a eu d'abord la faveur de Dieu. Parce que ses frangins n'étaient pas très sympas, pas très favorables à son égard, son père non plus. Joseph a eu la faveur des hommes, mais il a eu aussi d'abord la faveur de Dieu. Pensez aux rêves prophétiques qu'il a eus. Et les hommes n'ont pas été favorables en premier lieu à son égard. Marie a eu la faveur des hommes aussi. Hein, et tu as porté ta faveur, tu as posé le regard sur ta servante, Marie, la mère de Jésus. Salomon, etc. Et puis la première église à Jérusalem était dans la faveur de Dieu. Et je termine avec Actes 2, 47, qui montre la faveur, comment elle se manifestait, de l'église de Jérusalem. Actes 2, 47. Il louait Dieu, il y avait la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Acte 2, 47. Il louait Dieu et avait la faveur de tout le peuple. Tout ça pour mettre les choses dans le bon ordre, la parole de Dieu, et puis avant cela, on pourrait dire, il y a le service de l'adoration. Est-ce que tu es prêt à adorer le Seigneur? Un jour, le Seigneur m'a dit ça. Est-ce que tu es prêt à m'adorer? En toutes circonstances, je dis, Seigneur, tu sais, je ne sais pas trop. Voilà. Est-ce que tu es prêt à m'adorer? Premier service, le louer, l'adorer, prendre du temps pour cela. Déclenche la faveur divine. Alors ce texte, je le relis et je lis la gerbe. Mon fils, ma fille, n'oublie pas mon enseignement, que ton cœur observe mes préceptes. Promesse numéro 1, ils sont longueur de jour et année de vie et pour toi, plus grande paix. Qu'amitié et loyauté ne te quittent pas. Attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras la faveur, promesse numéro 2, et seras bien avisé aux yeux de Dieu et des hommes. Seigneur, on te remercie pour ces belles promesses qui sont là. Aide-nous à en mesurer la portée pour nos propres vies, pour la communauté locale, pour chacun, pour nos enfants, nos petits-enfants. Seigneur, merci pour cette parole. Nous voulons t'inviter à la graver, ou nous-mêmes à la graver avec toi, sur nos cœurs, sur nos pensées, qu'elle devienne vie, qu'elle devienne réalité. Merci pour tes enseignements, merci pour ce que tu veux nous dire à travers ce texte. Merci pour l'œuvre et la puissance du Saint-Esprit qui sont dans ces paroles. Nous les accueillons. Merci pour une grande paix ce soir sur chacun et chacune qui est là. Non pas comme signe d'approbation, mais parce que tu nous aimes simplement, Seigneur. Tu nous aimes et tu nous fais grâce. Merci pour la vigilance à laquelle aussi tu nous rends attentifs ce soir. Le fait de mettre en pratique ta parole, de l'écouter et de saisir ce qui est écrit dans ces textes. Merci Seigneur. Amen. Amen.